Il est bon de temps en temps et même souvent de regarder une épître verset par verset pour voir ce que Dieu nous dit, parce que chaque mot, chaque parole de Dieu est inspirée et a une utilité pour le chrétien. Et il y a des passages comme ça dans Timothée, on le lit ou on ne le lit pas et on passe à côté de bénédictions et de messages importants pour nous. Donc le fait de suivre tous ces versets, ça nous oblige à nous arrêter sur le message du Seigneur. C'est le deuxième message. Nous sommes donc arrivés au verset 12 du chapitre 1 de 1 Timothée. Donc 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je vous avais dit que l'angle avec lequel j'aborderais cette épître serait les choses qui comptent vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et là, dans le premier chapitre, il avait parlé notamment de la loi, parce qu'il y avait dans l'Église des discuteurs qui s'intéressaient aux généalogies, qui mégotaient sur des petits détails de la loi et qui empêchaient les chrétiens de s'occuper des choses qui comptent vraiment. Et là, Paul va montrer qu'il y a quelque chose qui est bien plus important et merveilleux que la loi, c'est la grâce. Et il commence en donnant un peu son témoignage, verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc il y a un contraste entre la loi qui condamne, qui juge. La loi est là pour révéler quoi? Notre péché, notre faillite, notre culpabilité devant Dieu, notre échec, notre cœur rebelle. Quand il y a une loi, le cœur a envie de la transgresser. Si vous mettez un panneau interdit de s'asseoir dans l'herbe ou sur ce banc, vous allez voir des gens qui vont quand même s'asseoir par rébellion. Tandis que la grâce, c'est l'opposé presque. La grâce, elle pardonne et elle transforme. La loi, elle ne fait que vous condamner, vous enfoncer, vous enterrer. La grâce, elle vous pardonne et vous transforme. Nous sommes tous sous la condamnation de la loi de Dieu. Même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, dans l'Épître aux Romains chapitre 2, Paul écrit que ceux qui n'ont pas la loi de Moïse, ils ont leur conscience qui leur dit, ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bon. Ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Et donc, tout le monde est coupable devant la loi de Dieu et sous cette condamnation. C'est universel. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet acte de condamnation, et dans la Bible, c'est comparé à une sorte d'acte écrit. C'est comme si le juge, Dieu notre juge, avait écrit condamné à mort, à perpétuité, hein? Parce que la mort éternelle est une mort à perpétuité. Et qu'il y avait notre nom là, sur l'acte. Emmanuel, condamné à mort à perpétuité. Et cet acte qui était contre moi, parce que j'étais pécheur, parce que je suis pécheur même, c'est pas parce que j'étais, je suis toujours pécheur, Christ l'a effacé. Regardez, tout en gardant la main dans Timothée, Colossiens 2, verset 14. Il parle de Jésus qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. À la maison, nous avons acquis un destructeur de documents. Vous connaissez ces machines qui broient pour qu'on ne puisse plus rien trouver de ce qui était écrit sur un document. C'est utile quand on veut protéger son identité. A shredder, je crois que c'est en anglais, c'est ça? Et c'est ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix. En mourant sur la croix, notre acte de condamnation est passé au destructeur de documents. On n'en parle plus jamais. On ne peut même pas le recomposer. Vous pouvez essayer de recoller les morceaux, ça ne marchera pas, c'est trop petit. Parce que Christ, sur la croix, a payé notre dette. Il a été frappé par la colère à notre place. Et donc, cette condamnation qui était contre nous, Christ l'a prise sur lui. Et maintenant, la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui le reçoivent comme sauveur, qui viennent à lui pour lui demander pardon, sont pardonnés et Dieu ne peut plus rien retenir contre eux parce qu'il a effacé l'acte de condamnation. Et voilà ce qui est arrivé à Paul. Et il dit que Dieu l'a trouvé fidèle. Alors ça, c'est quelque chose d'étonnant. Il dit, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc, il reconnaît que si Dieu l'a établi dans le ministère, c'est parce qu'il était fidèle. Et en même temps, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, celui qui m'a rendu fort, celui qui m'a donné la force. Donc, d'un côté, il reconnaît que sans Dieu, il ne pourrait pas être dans le ministère, il ne pourrait pas être un apôtre. Mais c'est vrai que Dieu a choisi Paul pour sa fidélité. Le mot fidélité, en grec, c'est le même mot que pour la foi ou croyant. Un croyant ou un fidèle, c'est pareil. D'ailleurs, on dit, hein, il y a combien de fidèles dans votre église ? Ce qu'on veut dire, il y a combien de croyants, combien de personnes qui participent. Et c'est le même mot en grec, fidélité, foi. Et également, c'est la même idée de loyauté. C'est quelqu'un qui est loyal envers Dieu, qui est fidèle envers Dieu. En quoi Paul a-t-il été fidèle dans son ministère ? Eh bien, si vous regardez un peu sa vie, vous découvrez que le Saint-Esprit a envoyé Paul à un certain nombre d'endroits et Paul a toujours obéi au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit disait « Tu vas là », Paul allait là. Lorsque le Saint-Esprit dit « Tu ne vas pas là », il n'allait pas là. Parce qu'à un moment dans le Nouveau Testament, Paul dit « Le Seigneur a fermé la porte. Hein? » Il voulait aller dans une certaine ville et il dit « Le Seigneur m'a fermé la porte. » Alors il n'a pas insisté et puis c'est là que la porte pour la Macédoine s'est ouverte et que le Saint-Esprit l'a conduit ailleurs. Donc il a été fidèle en obéissant toujours au Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes toujours obéissants au Saint-Esprit ? Est-ce que très souvent nous rebellons pas contre lui. Hein. Le Saint-Esprit nous dit « Prie pour telle personne, témoigne à telle personne, écris, téléphone. » Et nous, on dit « Oh, mais je verrai plus tard, oh, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. » Alors que le Saint-Esprit voulait nous utiliser, nous employer. Paul était fidèle, il obéissait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui disait de sauter dans l'eau, il sautait dans l'eau. Le Saint-Esprit lui dit « Tu vas en prison », il est allé en prison. Le Saint-Esprit a dit « Tu vas faire appel à César ». Il a fait appel à César et en faisant cela, il a été condamné à mort. Le Saint-Esprit lui a dit « Tu vas aller au temple à Jérusalem pour faire un vœu ». Et tous ses amis lui ont dit « N'y va pas, tu vas être arrêté ». Mais il est allé parce que c'était Dieu qui lui demandait de le faire. Combien de, je pense à des jeunes gens, des jeunes filles qui ont été appelés par Dieu et les parents ou les amis ont dit « Mais tu devrais pas, tu sais, c'est dangereux, c'est pas bien, ou attends un peu. Si le Saint-Esprit vous parle, soyez fidèle, obéissez lui. Une autre façon d'être fidèle, c'est que même après avoir été persécuté, il a continué à prêcher. Vous vous rappelez l'épisode où Paul a été lapidé, c'est-à-dire que des Juifs ont pris des pierres et l'ont criblé de pierres. Imaginez, déjà vous vous prenez une pierre dans la figure, une. Personnellement, vous avez tellement mal que vous ne pouvez plus bouger. Lui, il s'est pris des dizaines de pierres, il est tombé évanoui, on l'a laissé pour mort. Quand il s'est réveillé, il s'est relevé et il est entré à nouveau dans la ville. Ça, c'est la fidélité. Plusieurs fois, il a failli mourir à cause de son témoignage. Les foules se soulevaient, on a failli le lyncher, il s'est retrouvé en prison. Et là, c'est là qu'il a témoigné à ce geôlier, hein, vous vous rappelez, avec Paul et Barnabas. Il a passé presque plus de temps en prison que dehors, depuis qu'il est chrétien, Paul, hein, si on fait le compte. Mais chaque fois, il continuait, il ne s'arrêtait pas. Et puis, même en prison, il a continué à prêcher l'évangile. Peut-être qu'il aurait pu se dire, « Oh, je suis en prison, je ne peux rien faire, j'ai des barreaux, j'ai des chaînes, tout est fini, mon ministère est fini. » Non, il s'est dit, « Si Dieu m'a placé en prison, c'est pour que je témoigne en prison. » Donc, il a commencé à témoigner à ses gardes. Et puis, il y a des gens qui lui ont rendu visite. Il y a un certain Onésime. Vous vous rappelez d'Onésime? C'est dans quel épître qui est fait mention d'Onésime? Ça, c'est un peu dur, hein? Presque. Philémon. Voilà. Onésime, c'était le serviteur de Philémon qui s'était sauvé. Eh bien, apparemment, il avait été envoyé par Philémon dans la prison de Paul et Paul l'a amené à Christ en prison. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il a enfanté dans les chaînes. Donc, ça veut dire, c'est une expression pour dire je l'ai amené à Christ pendant que j'étais en prison. Et puis, Paul a gardé le message qui lui a été confié par Christ sans en changer aucun mot. Dans 1 Corinthiens 15, il dit « Vous serez sauvés par l'Évangile si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » C'est que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Le troisième jour, il s'est montré à plus de 500 témoins. Paul est resté fidèle au message que Dieu lui a confié. Il n'a pas affadi, dilué avec de l'eau. Il est resté avec le même évangile depuis le premier jour jusqu'à la fin. Il aurait pu se dire, mais avec toutes les persécutions que je reçois, peut-être que je pourrais changer un peu mon évangile pour que les Juifs l'acceptent mieux, parce que ses pires ennemis, c'était ses frères juifs. C'est eux qui le poursuivaient de leur haine. Il aurait pu se dire, je vais un peu modifier, je vais enlever ça, ça je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire que Jésus est Dieu, je vais dire qu'il est juste un super prophète. Non, il a continué son message fidèlement. Nous aussi, hein, des fois nous sommes tentés de modifier le message pour plaire ou ne pas déplaire. Et puis, sa fidélité s'est vue parce qu'il a gardé un comportement irréprochable, même quand il était dénigré de toutes parts. Les pires attaques que Paul a reçues sont venues de l'intérieur de l'Église. Par exemple, on a dit qu'il faisait tout cela pour l'argent, qu'il était un escroc, qu'il essayait de manipuler les chrétiens. Si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, vous verrez toutes les attaques contre Paul. Et il se défend, mais il a un comportement irréprochable. La fidélité, et il semble que le Seigneur ait vu dans le cœur de Paul cette fidélité. Et c'est pour ça que Dieu l'a jugé fidèle, pardon, en l'établissant dans le ministère. Et puis, il continue en disant « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur. » En quoi Paul était-il Saul de Tarse était-il un blasphémateur? Pourquoi est-ce qu'il avait blasphémé? Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était Dieu, que Jésus était le Messie. Pour lui, Jésus était un imposteur ou peut-être même un démoniaque, on ne sait pas exactement, mais comme beaucoup de pharisiens, de sadducéens, ils croyaient que Jésus était le pire des imposteurs. Hein. qu'il avait volé le nom de Dieu et qu'il s'en servait pour faire des miracles, etc. Il y avait toutes sortes d'histoires au sujet de Jésus. Et Paul était un blasphémateur à cause de ça, parce qu'il reniait Jésus le Messie. Il dit aussi, j'étais un persécuteur. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, il écrit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Le mot suffrage, en fait, ça désigne un petit caillou. Et la condamnation à mort dans ces tribunaux religieux se faisait par vote. Chacun avait un caillou blanc et un caillou noir. Et ensuite, on votait avec les cailloux. Et s'il y avait plus de cailloux blancs, on était condamné. S'il y avait plus de cailloux noirs, on était sauvé. Et donc, Paul n'a jamais tué de sa main un chrétien. Mais il est allé les jeter en prison. Il avait des lettres des principaux sacrificateurs. Donc, il était un émissaire du gouvernement juif de Juda et de Jérusalem. Et il a participé à leur mise à mort. Et il dit, j'étais un homme violent. Et là, vraiment, il montre qu'il avait cette violence, cette haine en lui. C'est curieux comme un certain nombre de gens qui sont très orthodoxes dans leur foi deviennent violents. On voit ça beaucoup dans les religions monothéistes notamment, mais dans toutes les religions. Certaines personnes pensent qu'il faut faire gagner la cause de Dieu par la violence, qu'il faut forcer les autres à croire comme nous. Et les chrétiens sont tombés dans ce piège lorsqu'ils ont eu pris le pouvoir à Rome. Et ils ont commencé à persécuter tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et ça a créé cette église apostate, hein, l'église de Rome, qui s'est mise à persécuter les gens au lieu de les bénir avec l'évangile, de les sauver avec l'évangile. Mais remarquez ce qu'il dit. J'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alors, pourquoi Paul dit j'agissais par ignorance? Voilà, parce qu'il n'avait pas, voilà, il n'avait pas compris qu'il s'opposait à Dieu. Il pensait encore faire la volonté de Dieu. Il était persuadé qu'il était dans le chemin de Dieu en persécutant ces chrétiens. Pour lui, ces chrétiens, c'était des apostats, des faux prophètes. Il fallait les éliminer comme Élie avait éliminé les prophètes de Baal. Paul était en Saul de Tarse, était en train d'éliminer ses disciples de Jésus. De Nazareth. Mais il dit par incrédulité. Donc, il ne se justifie pas, il ne s'innocente pas, parce qu'on pourrait dire, ben, je ne savais pas, j'étais ignorant. Oui, mais il dit, j'étais incrédule, je ne voulais pas croire non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont ignorants et incrédules en même temps. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'ils s'opposent à Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont à côté de la volonté de Dieu. Mais ça n'enlève pas leur culpabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. Quand on croit au Seigneur, tout devient clair. Le Seigneur se révèle et vous montre les choses. Mais tant qu'on est incrédule, il y a un voile, on ne comprend rien. Et vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si vous êtes incrédule, vous n'allez rien comprendre. C'est la foi qui ouvre la porte de la compréhension. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le plan de Dieu. Et puis il dit, la grâce du Seigneur a surabondé, verset 14. Il aime bien les mots comme ça, Paul, surabondé. En grec, il y a le mot hyper. Hein. Les jeunes, ils aiment bien dire ça. Oh, c'est hyper chouette, c'est hyper cool. Mais Paul, il était un peu comme ça. La grâce a hyperabondé. C'est ça qu'il dit. A hyper coulé. Et. Pourquoi il emploie ce mot? Parce qu'il dit, moi j'étais tellement dans le péché, dans l'aveuglement, dans la violence, dans la haine absolue, hein, j'étais prêt à mourir pour tuer les chrétiens, il fallait que la grâce vraiment surabonde pour le sortir de là. Je parlais avec un musulman récemment et il me rappelait que pour eux, l'apôtre Paul n'est pas un prophète. Pour eux, c'est un homme maudit parce qu'il a tué les saints et les chrétiens. C'est curieux, hein? Et ils ne le considèrent pas comme un prophète, donc ils ont les évangiles, mais les épîtres de Paul, c'est faux. C'est mauvais. Parce que Paul a été un persécuteur. Mais je lui ai dit, mais j'ai dit, au contraire, Dieu l'a gracié, l'a sauvé. C'est merveilleux que Dieu puisse pardonner un persécuteur. Et j'ai dit, mais dans l'islam, il y a des gens qui tuent pour Dieu, pour Allah. Et Dieu ne veut pas. Paul, il était dans le judaïsme, il tuait pour Yahvé. Et il y a des musulmans qui tuent pour Allah. Et on peut être pardonné, on peut être changé de ça. C'est ça qui est merveilleux avec l'histoire de Paul. Il révèle que le pire des pécheurs peut être sauvé. Il travaillait contre le Messie alors qu'il croyait servir le Messie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a si peu d'amour dans la religion musulmane, parce que c'est une religion basée sur la loi, sur la volonté divine qui est absolue. Et bien que Allah est appelé souvent le miséricordieux, il n'est pas du tout miséricordieux. Il est miséricordieux quand il veut. Mais la plupart du temps, c'est la loi implacable. C'est le destin qui vous frappe. Voilà, il n'y a pas de pardon pour le rebelle. Alors que dans l'Évangile, le pire des pécheurs, le pire, et Paul en est un, hein, peut être racheté. J'ai lu l'histoire de cet homme qui s'appelle Jacob Cauchy, qui est né à Singapour. Et Jacob Cauchy était, depuis son jeune âge, il voulait gagner beaucoup d'argent et il est tombé dans la drogue. Ça circulait beaucoup près de chez lui et il a réussi à combiner les deux en devenant trafiquant de drogue. Voilà. Aujourd'hui, il y en a énormément en France aussi, hein, des jeunes qui roulent en voiture de luxe alors qu'ils sont au RSA ou au RMI parce qu'ils trafiquent la drogue. Et lui, c'était ça. Et il a eu une très belle vie, si on peut dire, pas une très belle vie, mais une vie facile, beaucoup d'argent, etc., beaucoup de débauches, jusqu'au jour où, ce qui arrive toujours, il s'est fait arrêter. Et là, on l'a reconnu coupable de trafic de drogue et il a passé un certain nombre d'années en prison. Et lorsqu'il était en prison, il était vraiment complètement déboussolé et découragé parce qu'il dit, moi, ce que j'aime, c'est l'argent et la débauche et la fête. Et là, en prison, je n'ai ni l'argent ni la fête. Et il y avait dans chaque cellule une Bible Gédéon. Vous connaissez les Bibles Gédéon? Les Gédéons, c'est une association chrétienne qui place des Bibles dans les lieux publics, dans les hôtels notamment, dans les hôpitaux et dans les prisons. Petite Bible bleue. Et lui, il avait trouvé un moyen de faire rentrer du tabac et du shit dans sa cellule, dans la prison, alors que c'était interdit. Et il lui fallait juste un peu de papier pour rouler son joint. Alors, ben, il a dit, je vais prendre une feuille de la Bible. Il a commencé donc à fumer la Bible. Et il a fumé la Bible et puis s'est endormi avec son clope au bec, comme on dit. Et là, il a été réveillé en sursaut, c'était éteint et il n'y avait plus rien, plus de tabac. Et il a vu juste un petit bout de papier donc qui restait. Et là, ça parlait d'un certain Saul qui tombe par terre parce qu'il a vu une grande lumière. C'est le passage du livre des Actes où Saul, sur le chemin de Damas, tombe par terre. Et il voulait voir la suite. Il, tiens, c'est intéressant ça. Alors il prend la Bible là où il a déchiré et il commence à lire la suite. Et il lit, il lit, il lit, et il lit le livre des Actes et il s'arrête plus de lire. Et finalement, il devient comme Paul, il se convertit à Jésus-Christ et il devient un chrétien. Plus tard, quand il a été libéré, il a été libéré plus tôt grâce à son comportement de chrétien. Il a rejoint une église, il s'est marié avec une chrétienne, il est devenu missionnaire en Asie. Jacob Cauchy. Il a fumé la Bible et il s'est converti. C'est pour vous dire que la personne qui est le plus loin possible, parce que pour fumer la Bible, il faut vraiment en avoir rien à faire, hein. Ça va me servir pour faire ma cigarette. La personne qui est la plus loin possible peut être sauvée. C'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile. Quand vous croisez dans la rue ces jeunes qui dealent de la drogue, vous dites, ah, oh, ceux-là, c'est fini pour eux. Non, c'est pas fini. Ils peuvent être sauvés. Quand vous croisez ces bons Français complètement butés contre l'Évangile, on vous dit, oh là là, ceux-là. Non, Dieu peut vraiment les toucher comme il a touché ce Jacob. Il suffit qu'ils soient mis face à la puissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut continuer à prier pour ces 300 000 évangiles qui ont été distribués, pour ces traités qui sont donnés hein, tout le temps. Ces gens qui se servent dehors, là, qui prennent le Nouveau Testament ou un traité. Il faut prier que quand ils sont face à la Bible, ils soient sauvés. Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et notez bien qu'il dit, dont je suis. Il ne dit pas j'étais. Pour lui, jusqu'à la fin de ses jours, il était le premier des pécheurs. Le premier dans le sens le pire, hein, bien sûr. Et il disait même à moi comme à l'avorton, il dit ailleurs, hein, je suis un avorton. Je suis un avorton, hein, c'était le fœtus qu'on venait d'avorter. C'était quelque chose qu'on jetait. Il dit, voilà, moi je suis, voilà la valeur que j'ai. J'ai la valeur d'un avorton, je ne vaux rien. Mais le Seigneur m'a gracié. Le Seigneur m'a même jugé fidèle pour m'établir comme ministre de son évangile. Moi, qui étais le pire ennemi, je suis devenu le meilleur ami du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, le travail de l'évangile? La loi ne peut pas faire ça. La loi va vous poursuivre de sa condamnation avec l'acte en disant, hey, tu es coupable, tu dois mourir. Mais l'évangile vous poursuit de l'amour de Dieu, dit, tu es coupable, mais Christ a effacé, Christ est mort pour toi, il peut te transformer. Et Paul est tellement touché qu'il loue le Seigneur au verset 17, il dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, sois honneur et gloire. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Nous croyons que c'est un Dieu invisible qui s'est rendu visible hein, par Christ, mais que c'est un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. C'est le roi des siècles, il est au-dessus de nous. Il est descendu, il l'a fait voir en nous sa grâce, sa longanimité, comme dit Paul ici. Et il dit, je suis un exemple, verset 16, à tous ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Et c'est vrai que Paul, on peut le citer en exemple, dit, regarde, c'était le pire ennemi, il est devenu chrétien. Il y a un certain nombre de musulmans qui ont donné leur témoignage. Hein. Ils persécutaient des chrétiens, ils sont devenus chrétiens eux-mêmes. Il y a un certain nombre de gens dans toutes les conditions, ennemis des chrétiens qui se sont convertis. Et puis il termine en donnant à nouveau un commandement à Timothée. La recommandation, verset 18, que je t'adresse, mon enfant. Et j'aime bien ce petit terme, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Alors je m'arrête là un instant. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est ces prophéties qui ont été faites au sujet de Timothée? Si vous regardez 1 Timothée 4, 14, vous trouvez cette phrase. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. De quel don parle-t-il? Et Paul ne le dit pas, mais nous pensons que c'est ce don de pastorat, ce don d'enseignement et de pastorat, puisque Timothée était pasteur. Et il dit, mais ce don, tu l'as reçu par imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, lorsqu'il a été consacré pasteur, les anciens de l'Église se sont réunis, ont prié et ils ont prophétisé. Et dans leur prophétie, ils ont dit, Timothée sera un pasteur fidèle, sera un pasteur qui va porter l'évangile et qui va défendre la foi et qui va être un bon enseignant de la Bible. Et Paul lui dit, rappelle-toi ce moment où on t'a imposé les mains. Vous savez, enfin bon, j'ai connu ça quand j'ai été consacré pasteur. C'est très, très, très émouvant. Il y a le baptême, et puis il y a le mariage, et puis il y a la consécration. Ça, c'est des moments très, très forts dans la vie, quand on est consacré. Et on n'oublie jamais ce jour où vous avez ces anciens qui vous donnent la main d'association, hein, qui prient pour vous et qui reconnaissent, dit voilà, nous reconnaissons un don de pasteur chez ce frère ou un don d'évangéliste chez ce frère. Il rappelle ça à Timothée pour qu'il ne perde pas de vue la ligne. Et puis, l'autre mention, c'est 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, il fait certainement allusion au même moment où Timothée a dû faire un discours ou une confession publique devant des témoins en disant « Voilà, je suis chrétien, voilà, je veux servir le Seigneur. » Et c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on consacre un pasteur. Le pasteur doit aussi donner son témoignage et de conversion, mais aussi d'appel. Et donc, je reviens à notre verset de 1 Timothée 1, verset 18. « Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Quelles sont les choses qui valent vraiment la peine? C'est de combattre le bon combat. Vous connaissez l'histoire de Don Quichotte qui s'est battu contre des moulins. Ce n'était pas le bon combat. Il s'est trompé de combat. Il pensait se battre contre des géants et tout ce qu'il faisait, c'était d'abattre des moulins avec sa lance et son cheval. Et il y a des chrétiens Don Quichotte qui se battent contre des moulins. Ça se dit d'ailleurs en français. Ou qui se battent contre le vent. Paul dit, je ne bats pas dans l'air. Il faisait allusion à la boxe. Je ne fais pas du vent, moi. Quand je combats avec le bon combat. Et qu'est-ce que c'est le bon combat? C'est ça la question qu'on se pose. Le mot qu'il emploie d'ailleurs, c'est une campagne militaire. Il ne parle pas d'un combat de boxe, là, il parle d'une campagne militaire. Il parle de la guerre. Des fois, on peut perdre une bataille, mais la guerre, il faut la gagner. Et Paul dit à Timothée, regarde bien où est la guerre. Ne rate pas, ne passe pas à côté de la vraie guerre. Il faut se battre là où est vraiment la guerre. J'aime bien cette histoire toujours avec l'amiral Nelson lors de cette fameuse bataille. Lorsqu'il était sur son navire et il y avait deux sous-officiers qui se querellaient sur le pont pendant que l'armée espagnole en face s'avançait contre eux. Et Nelson a dit « Ça suffit, messieurs, l'ennemi, il est là-bas. » Et ces deux sous-officiers se sont tus. Et l'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est le péché. C'est ça le vrai combat. On ne se bat pas contre les chrétiens, on se bat ou contre des hommes, contre la chair et le sang, dit la Bible. On se bat contre des démons, des esprits méchants, des fausses doctrines. On se bat contre le péché aussi, qui veut nous envelopper et nous abattre. Satan attaque la personne de Dieu, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. Satan attaque l'Église. Il cherche à la diviser de l'intérieur, à la pourrir, à la souiller, à la décourager. Satan s'attaque à la famille. Il cherche à la diviser. La pire chose qui arrive à une famille, c'est le divorce. Et ce qui est pour moi incompréhensible, c'est qu'il y a statistiquement autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. C'est inacceptable. Alors on peut dire, mais oui, c'est la société, c'est le monde, etc. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pratiqué ou compris. Parce que le divorce, c'est une attaque directe contre l'unité de la famille. Les enfants en souffrent perpétuellement et ils reproduisent la chose et ça fait de plus en plus de divorces. Satan attaque aussi la famille en donnant une autre définition de la famille. Je n'entrerai pas en détail là-dessus, on va en parler plus tard. Satan attaque toute la création de Dieu. Il veut tout pervertir comme il a cherché à pervertir le monde sous Noé. Et puis, combattre le bon combat, c'est se battre avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont pacifiques et douces. Les armes charnelles sont violentes. C'est Paul, la violence. Oh, il faut les arrêter, il faut se battre. L'arme de Dieu est spirituelle, elle est pacifique. La Bible dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Alors que la sagesse d'en bas, elle est violente, elle divise, elle casse. Donc nos armes sont charnelles, sont spirituelles, ne sont pas charnelles. C'est la prière. C'est l'amour de Dieu quand on parle aux gens. Mais vous me dites, oui, mais si vous parlez, vous êtes trop, trop gentil, les gens, ils vont pas écouter. Il faut un peu les pousser. Jésus n'a pas fait comme ça, les apôtres n'ont pas fait comme ça. Ils ont prêché et ils ont compté sur Dieu et les gens sont venus. Mais on ne force personne. Ce n'est pas comme ça qu'on parle de l'évangile. Et puis, Dieu ne veut pas que on se perde en discussions stériles. Hein. Dans Timothée, là, il y avait ces problèmes de discussion à n'en plus finir. Paul dit, combat le bon combat, ne t'occupe pas de ces discussions de généalogie et de je ne sais pas quoi. Ton combat, c'est prêche l'évangile, enseigne la Bible, défends l'Église, défends la foi. Souffre comme un bon soldat de Christ. C'est ça ton combat. Et ne trahis pas le Seigneur. Continue à suivre ton capitaine qui est Jésus-Christ. Et puis il dit, verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Il répète encore cette idée d'une bonne conscience qu'on avait vue la dernière fois. Combien c'est important d'avoir une bonne conscience. Et je répète qu'il ne parle pas de l'hypocrisie là. Parce qu'il y a des gens qui, par hypocrisie, gardent une bonne conscience. C'est-à-dire, ils cachent leur péché et ils se donnent une bonne conscience en s'habillant bien, en ayant l'air d'un bon chrétien, en priant. Mais c'est une fausse bonne conscience. La vraie bonne conscience, elle provient de quoi? Quand est-ce qu'on a une vraie bonne conscience? Quand on a été pardonné par Christ et quand on a une vie juste et pure. Si on vit dans le péché, on n'a pas une bonne conscience, une vraie bonne conscience. Et ce qu'il est en train de dire à Timothée, là, c'est que garde ta conscience, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne te laisse pas envahir par le péché, par des choses qui ne comptent pas vraiment, qui ne valent pas la peine. Concentre-toi sur l'essentiel, sur obéir au Saint-Esprit, prêcher l'Évangile. Et attention parce que le péché t'attend à la porte. Combien de serviteurs de Dieu dans l'histoire et dans le monde se sont fait piéger par l'amour de l'argent, par le sexe, par le pouvoir et toutes sortes de péchés. Ils avaient un beau ministère et puis d'un seul coup, ils tombent. Hein, le pasteur qui quitte sa femme et il part avec la secrétaire ou la pianiste. Bon, moi, je suis parti avec la pianiste, mais nous nous sommes mariés. C'est ma seule femme. Mais je n'ose même pas raconter ces histoires parce que ça fait du tort à toute l'Église de Dieu. Ces serviteurs de Dieu qui abandonnent. Il y a des pasteurs qui abandonnent le ministère et disent c'est fini, j'arrête. Des missionnaires qui reviennent chez eux sans raison majeure, parce que des fois il y a une raison majeure, hein, des problèmes de santé graves, mais qui reviennent chez eux en disant moi finalement je préfère vendre des voitures que prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans le ministère? Et ils abandonnent les églises. Et puis il y a les serviteurs de Dieu qui quittent la doctrine carrément, ils quittent la foi. Et ici il en parle, hein. Hyménée et Alexandre, ils ont fait naufrage. Là, ils donnent une image de la marine. Ils ont coulé. Comment ils ont fait naufrage? Parce qu'ils ont laissé le péché rentrer dans leur bateau. Et puis au bout d'un moment, quand il y a trop d'eau dans le bateau, on coule. Et ça arrive comme ça, petit à petit, ça arrive à tout, ça peut arriver, je veux dire, à tout chrétien. Vous laissez le péché se multiplier dans votre barque et votre conscience commence à être mauvaise. Vous avez cette culpabilité et le péché commence à vous couler petit à petit et vous dites, oh, à quoi bon prier puisque de toute façon, j'ai pas une bonne conscience. À quoi bon évangéliser, j'ai pas une bonne conscience. À quoi bon parler de Dieu, j'ai pas une bonne conscience. À quoi bon aller à l'église? Et finalement, il y a des chrétiens qui laissent tout tomber à cause de leur mauvaise conscience. Nous avons en France des milliers de chrétiens sans église. Certains disent, j'ai pas besoin d'église, je prie tout seul, mais la plupart du temps, ils vivent comme des gens du monde, n'ont pas de vie chrétienne. Parce qu'à un certain moment, leur conscience a été troublée et ils n'ont pas eu la vision du bon combat. Et ce qui est important, c'est que je reste fidèle à l'église. de Christ. C'est que je reste fidèle au Seigneur. Bon, il y a des gens dans l'église qui ne me plaisent pas ou qui m'ont blessé. Allez, on va essayer de pardonner et on va rester fidèle. On va pas se laisser décourager parce que c'est Satan qui veut nous faire partir, nous décourager. Bien sûr, si une église enseigne une fausse doctrine, il vaut mieux quitter et chercher une autre église. Si c'est une autre, vraiment une fausse doctrine. Mais toujours aller à l'église, toujours suivre le Seigneur, être fidèle, le bon combat. Les choses qui comptent vraiment, c'est d'avoir une bonne conscience, d'avoir aussi cette grâce de Dieu dans sa vie, cette grâce qui a transformé Paul, qui a transformé les pires des pécheurs. Est-ce que vous avez été transformé vous-même par la grâce de l'Évangile? Ou est-ce que vous êtes encore sous la loi, avoir des culpabilités, avoir cet acte de condamnation qui est au-dessus de votre tête? Est-ce que vous avez compris que Christ l'a pris sur lui et quand on a mis les clous, ça a effacé cet acte. Son sang a effacé l'acte de condamnation de Dieu envers nous. Et aujourd'hui, nous pouvons faire les choses importantes de la vie, les choses éternelles, c'est ça qui compte, s'occuper des choses célestes et éternelles et ne pas perdre de temps dans des combats stériles. Je pense encore à ce pasteur qui avait une dent contre la bière et il prêchait toujours contre la bière, peu importe le passage biblique qu'il avait sous les yeux pour prêcher, il terminait son message en disant « La bière est mauvaise, c'est un péché de boire de la bière. » C'était son cheval de bataille, comme on dit. Mais je pense que à faire ça, il a perdu des batailles, justement, d'autres batailles. Parce qu'il n'y a pas que la bière qui est un problème, il y a beaucoup d'autres problèmes, d'autres péchés. Et à nous de voir clair, d'avoir la vision du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide dans tout cela et qu'il nous éclaire sur les choses qui comptent vraiment. On va terminer par la prière.